La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Bonjour. Donc nous lirons, donc, je rappelle, 1 Jean 3, versets 11 à 18. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en...
Est-ce qu'il y a aujourd'hui parmi nous quelqu'un qui s'appelle Zoé ? Est-ce que parmi les petites filles qui sont là, il y en a une qui porte ce nom de Zoé ? Il n'y en a pas ? C'est dommage. Alors je sais que aujourd'hui, il y a un grand-père et une grand-mère qui ont une petite fille qui s'appelle Zoéline. Mais Zoé est un nom tout à fait intéressant qui est utilisé dans le texte que vient de nous lire Catherine. Le mot Zoé est un mot qui veut dire vie. C'est d'ailleurs le mot que l'on utilise en français lorsque l'on parle d'un parc zoologique, c'est-à-dire un parc dans lequel il y a des êtres vivants. Le mot Zoé est utilisé dans ce texte que nous avons lu, que Catherine nous a lu, et que je vous invite à relire au moins en partie. Donc nous sommes dans la première épître de Jean, au chapitre 3, et à partir du verset 11, l'apôtre nous dit dans quel domaine il veut nous conduire dans ce paragraphe. Ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Le sujet, c'est donc le sujet de ce commandement particulier qui est répété à maintes reprises dans la Bible, que les êtres humains sont invités par Dieu à s'aimer les uns les autres. Alors c'est vrai qu'on se demande très souvent, mais en quoi cela consiste-t-il ? Qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Et l'apôtre Jean, dans ce paragraphe, va d'abord nous donner le mauvais exemple. Il nous dit « ne pas ressembler ». Notre devoir, c'est de ne pas ressembler à Caïn. Il va nous préciser que Caïn était du malin, ou en quelque sorte inspiré par l'esprit mauvais, malin, malicieux, méchant, qui fait des dégâts. Et qu'en conséquence, il tua, et le verbe qui est employé là est un verbe très fort, il égorgea son frère. Alors bien sûr, la question se pose, mais pourquoi l'égorgea-t-il ? Et le texte de Jean continue en nous disant « parce que ses œuvres à lui, Caïn, étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes ». On a donc là une interprétation de ce qui est raconté dans la Genèse et qui nous explique que l'acte de Caïn était mauvais, tandis que celui d'Abel était juste. Mais notre sujet n'est pas d'essayer d'expliquer l'un ou l'autre de ces actes. Simplement, Caïn est donné comme un mauvais exemple. Lui, conduit par le malin, qui avait un comportement mauvais, qui commettait des actions mauvaises, a ajouté ou a révélé cet état d'esprit mauvais, en égorgeant son propre frère. Si nous poursuivons la lecture, le texte nous dit « Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. » C'est-à-dire « Ne vous étonnez pas si en dehors de la communauté, chrétienne, il y a des comportements qui sont mauvais, comme ceux de Caïn, qui sont inspirés par l'esprit du mal et qui aboutissent à des actes de violence et qui peuvent être des meurtres, des assassinats, des actes terroristes, des attentats, etc. Ne soyons pas étonnés parce que c'est l'esprit du mal qui domine notre société et parfois nos vies. Et Jean continue. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous avons là quelque chose de très intéressant où est utilisé justement ce mot « zoé ». Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, de la mort à Zoé, lorsque ou parce que nous aimons les frères. En quelque sorte, l'apôtre Jean est en train de dire que dans la vie des êtres humains, il y a deux camps, le camp de la mort, le camp de la vie. Et comme quand nous jouions des jeux de groupe, quand nous étions aux tisons, aux explos, ou dans une autre rencontre de jeunesse, il est possible de changer de camp. Et l'apôtre Jean est en train de nous dire que le chrétien est quelqu'un qui a changé de camp. Il est passé du camp de la mort au camp de la vie, au camp de Zoé. Et ce qui le montre, qu'il a fait cette transition, ce changement, ce passage, c'est le fait qu'il aime les frères. Et pour être sûr que nous ayons bien compris, Jean insiste en nous disant « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, reste dans le camp de la mort. » Et évidemment, ceci nous donne cette urgence de réfléchir et de nous dire dans quel camp sommes-nous. C'est urgent de changer de camp si nous sommes dans celui de la mort. C'est urgent de nous mettre du côté du camp de la vie, de passer et de nous mettre du côté de Zoé. Et nous voyons par là que ce mot Zoé, lorsqu'il parle de la vie, ne parle pas n'importe comment de la vie. La vie dont il est question ici, c'est la vie qui appartient à Dieu. C'est la vie qui émane de l'acte créateur que Dieu a fait et qui est la puissance de Dieu lui-même et qui représente en fait le camp de Dieu, ceux qui sont en route vers la vie, ceux qui défendent la vie, qui veulent que la vie triomphe, que la mort n'ait pas le dernier mot et qui, bien sûr, pour cela, se range du côté de Dieu qui est la seule source possible de la vie. D'ailleurs, si nous poursuivons notre lecture, le texte du verset 15 nous dit « Quiconque hait ou déteste son frère est un meurtrier ». C'est-à-dire qu'il utilise là le mot qui pourrait qualifier Caïn. C'est un preneur de vie. C'est quelqu'un qui, au lieu d'apporter la vie, de donner la vie, est quelqu'un qui l'ôte, qui la prend, qui la ravit. Et c'est vrai que quand on lit une expression comme celle-là, nous sommes absolument bouleversés et obligés de réfléchir non seulement à l'urgence, mais à l'importance du camp dans lequel nous nous trouvons. Parce que être dans le camp de la mort, c'est finalement être un meurtrier. La haine, le fait de détester, c'est quelque chose qui prouve que nous sommes sur le chemin qui conduit à la mort, pas seulement la nôtre, mais celle que nous risquons d'infliger aux autres. Et il est évident qu'en nous disant ça, l'apôtre Jean nous montre à quel point c'est grave de haïr, de détester, à quel point il est important d'aimer. Mais évidemment, nous nous demandons toujours en quoi peut consister cela. Alors il poursuit et il nous dit « Vous le savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui-même. » Et ici encore, la vie éternelle est désignée par ce terme « zoé ». Zoé, c'est le seul mot qu'on traduit par « vie » en français et qui peut être, dans la Bible, accompagné de cet adjectif « éternel ». La vie éternelle, c'est une condition de vie qui ne peut émaner que de Dieu qui est le Créateur, de Dieu qui est hors du temps, de Dieu qui est à l'origine de la vie, mais qui peut la faire se prolonger jusque dans l'éternité. Et lui seul a cette capacité. De toute façon, l'être humain que nous sommes, qu'il soit dans le camp de la vie ou qu'il soit dans le camp de la mort, a plus de risques de devenir un meurtrier que, et lui, il n'a pas le risque d'être un créateur, d'être quelqu'un qui donne la vie. Au plus, il est invité, dès le début de la Bible, à procréer, à être un imitateur de Dieu dans le sens où il va pouvoir transmettre la vie. Mais cette vie, elle n'est pas en lui, elle n'émane pas de lui. Il n'en est ni le propriétaire, ni le concepteur, ni celui qui a le pouvoir de la donner vraiment. Et c'est ça que veut dire le mot « zoé ». Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Jean poursuit et là va utiliser d'autres mots que nous avons l'habitude de traduire par « vie ». Au verset 16, il nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Et vous remarquez que l'apôtre Jean est très discret. Il ne précise pas qui est cet « il » qui est là. Il a donné sa vie pour nous. Évidemment, quand nous relisons les écrits de Jean, nous n'avons aucune peine à deviner la personne qu'il désigne par ce pronom. Cette personne ne peut être que Jésus. Et c'est très intéressant, parce que lorsque nous réfléchissons à l'épisode de Caïn, nous pensons que l'opposé de Caïn, c'est son frère, Abel. Alors c'est vrai que Abel, dans cette histoire, a perdu la vie. Son frère a été meurtrier, lui a pris la vie. Caïn est preneur de vie. Mais Abel n'est pas donneur de vie. Il est perdant de la vie, victime de son frère. Mais il ne donne pas sa vie. Il la perd involontairement, sans le souhaiter. Il n'avait pas envie de mourir. Ce qu'il a fait n'a pas été fait afin de mourir. L'acte d'Abel n'a jamais été un acte qui, de près ou de loin, pourrait ressembler ou être assimilé à un suicide. Non. Abel est victime. Et c'est très intéressant que l'apôtre Jean, quand il écrit là, va nous dire que Jésus, sans le nommer, Lui, il a donné sa vie. Et là, il ne parle pas de Zoé, mais il parle d'un autre mot qui est le mot psyché, qui a donné dans notre langage des mots comme psychisme, psychologie, psychiatre, psychologue, psychothérapie. Ce psyché, c'est le mot vie qu'il emploie ici. Et c'est très intéressant parce que là, il ne s'agit plus simplement de la vie que Dieu donne, dont il est le créateur et qu'il peut prolonger pour toujours, mais il s'agit de la vie reçue, de la vie qui s'est incarnée, de la vie qui a une histoire et qui peut être reportée dans un livret de famille, avec une date de naissance, avec une date de mariage, avec une date où la personne devient parent, avec éventuellement un jour une date de décès. Cette vie qui est incarnée entre deux dates, c'est psyché, c'est la vie telle que je la ressens, telle que je l'expérimente, c'est la vie qui est la mienne, qui est différente chez moi de la vie de mon voisin. C'est ma vie, c'est la vie qui porte mon nom, c'est la vie qui a une identité, qui est individuelle. Et c'est très intéressant parce que cette vie-là, nous pouvons la donner. On peut nous la prendre, comme Abel s'est fait prendre la sienne injustement. Mais celle que nous pouvons donner, c'est cette vie-là. Ce n'est pas Zoé. Je ne peux pas donner Zoé, je n'en suis pas propriétaire, je ne dépends pas, je ne détiens pas Zoé. Par contre, la vie que Dieu m'a donnée qui s'est incarnée, Zoé. Par contre, la vie que Dieu m'a donnée qui s'est incarnée en moi, c'est celle que je peux lui consacrer, c'est celle que je peux lui donner pour qu'il la façonne, pour qu'il en fasse ce qu'il souhaite. Et c'est vrai que c'est un travail qui peut être laborieux, mais ce qui est passionnant, c'est de voir que celui qui s'oppose à Caïn, c'est Jésus qui, au lieu de prendre la psyché d'un autre, donne sa psyché à lui. Prendre ou donner. Voilà le choix devant lequel l'apôtre Jean nous place. Et c'est un choix qui est un choix absolument intense, dramatique presque, je dirais. Alors, conscient d'avoir été très... conscient d'avoir été très loin dans cet enseignement, il y a quelque chose de très intéressant dans la suite du texte. Il nous dit, et je reprends le verset 16, « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Aïe, aïe, aïe. Comment est-ce que je peux faire pour en arriver à être prêt à donner cette vie qui porte mon nom, qui est née à telle date, dans telle famille, à tel endroit, qui a vécu telle histoire et qui un jour peut mourir? Comment est-ce que je peux faire pour donner cette vie-là pour les frères? Et c'est là que l'apôtre Jean, inspiré par Dieu, a le génie d'utiliser un autre mot qui est un mot très différent et que nous connaissons bien et qui appartient au vocabulaire que nous utilisons pour parler de la vie. C'est le mot « bio ». Et oui, au rayon de l'amour, qui est ce rayon dont nous essayons d'apprendre, que nous essayons d'utiliser pour nous fournir, pour nous alimenter. Ce qu'il nous faut trouver, c'est la place du bio. Et cette place du bio, c'est ce que Jean décrit dans le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, les biens du monde. C'est la traduction qui a été choisie pour dire le mot « bio ». C'est-à-dire ce qui est un bio. C'est-à-dire ce qui est à notre disposition sur cette planète que Dieu a créée pour entretenir notre psyché, pour permettre que nous puissions grandir, croître, donc nous nourrir avec une alimentation qui permet une croissance, mais qui n'est pas juste des aliments biologiques de telle ou telle marque, mais qui est aussi nos lectures, nos apprentissages, notre façon de nous nourrir moralement, spirituellement, intellectuellement. Tout ça, c'est le bio, c'est les moyens d'entretenir la vie, c'est ce que ce monde que Dieu a créé tient à notre disposition pour que la vie puisse se développer, grandir, s'épanouir. Et donc, si quelqu'un possède les biens du monde, et nous avons tous à notre disposition, comme habitants de cette planète, au moins une partie de ces biens du monde. Nous vivons dans une société qui est une société du travail, certains me diraient du chômage, oui, société économique, dans laquelle nous travaillons pour essayer d'acquérir une partie de ces biens du monde, ou en tout cas des intermédiaires qui nous permettent d'accéder à ces biens du monde. Si quelqu'un possède, et il est évident que nous qui sommes ici ce matin, nous faisons partie des possédants. Nous ne sommes pas égaux dans ce domaine. Certains possèdent peut-être davantage que d'autres. D'autres ont peut-être conscience de ne posséder pas grand-chose, mais pourtant ils possèdent. Il suffit d'aller dans d'autres régions de notre monde qui sont en guerre ou qui sont sous d'autres climats pour se rendre compte que nous sommes des possédants en comparant notre situation à celle d'autres populations de notre planète. Donc nous tous qui sommes ici, nous sommes dans l'hypothèse que Jean est en train d'ouvrir. Si nous possédons les biens du monde, le bio, c'est là, sur un rayon, ça nous est accessible. Alors, deuxième élément de l'hypothèse de Jean, si nous voyons et que voyant, comme le dit la traduction, son frère dans le besoin. Et le verbe « voir » qui est utilisé ici n'est pas juste un verbe qui veut dire « apercevoir ». C'est un verbe qui veut dire « regarder avec intensité », « voir » pour remarquer la situation. C'est exactement comme dans l'histoire que Bertrand vient de nous raconter, où ce merle à regarder la grive suffisamment intensément pour se rendre compte qu'elle avait perdu l'extrémité de son bec. C'est pas juste un regard passager, c'est le fait de voir, de prendre le temps d'examiner, d'analyser, de constater la situation et de se dire « ce frère, cette sœur est dans un besoin particulier ». Et vous remarquez que Jean est en train, je dirais, de nous faciliter la tâche. Il est en train de nous dire que nous devons nous aimer les uns les autres n'est pas une chose hors de notre portée, un espèce d'idéal de grand rêveur de fraternité humaine. Mais il nous ramène dans quelque chose de très concret. Si tu fais partie de la catégorie de ceux qui ont du bio à disposition, et si en plus tu vois, tu examines, tu as le temps de constater avec précision le besoin d'un homme ou d'une femme qui est ton frère à côté de toi, alors il va nous dire, s'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Et il est évident que nous avons là quelque chose qui nous aide à comprendre concrètement ce que c'est que l'amour dont l'apôtre Jean nous parle. Cet amour vient de Dieu, Le problème, c'est de savoir si nous le laissons entrer en nous, s'il est là dans nos entrailles, s'il est là au fond de notre cœur, car c'est de l'abondance du cœur que sortent les choses de notre vie. Et nous voyons là que le besoin de l'autre devient une chose évidente et la possession la condition pour que l'amour se manifeste de façon concrète. Et on voit bien que dans le verset 18, l'apôtre Jean va donner une conclusion qui est extrêmement simple et très facile à comprendre. Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et avec vérité. Alors c'est vrai, c'est toujours facile de dire qu'on aime. C'est toujours facile de se réclamer d'un idéal comparable à l'idéal chrétien. C'est beaucoup plus complexe de passer aux actes. Mais pour passer aux actes, il faut avoir d'abord conscience que Dieu a mis à notre disposition cette forme de vie qu'on appelle le bio dans le texte de Jean et qui fait que nous avons quelques moyens pour entretenir ou développer la vie et que ceux-ci doivent être partagés avec ceux dont nous avons pris conscience concrètement de façon claire et nette parce que nous les avons observés avec précision, que ce besoin, le bio que nous détenons, peut le satisfaire. Aujourd'hui, j'ai mis une chemise rose, parce que c'est octobre rose, parce que la ville de Damaris est engagée dans des manifestations tout au long de ce mois d'octobre, et aujourd'hui en particulier, pour aider, travailler de façon à être en soutien aux femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Alors c'est vrai, mettre une chemise rose, c'est une forme de langage. Aller défiler dans les rues de Damaris, c'est une forme de langage. Accrocher à sa maison, à son balcon, un t-shirt rose ou un ballon rose, c'est une forme de langage. Concrètement, il est important de savoir ce que nous pouvons faire lorsque nous pouvons être atteints d'une maladie de ce genre, lorsque nous savons qu'une sœur, qu'un frère de notre Église peut être atteint d'une maladie. Que faisons-nous concrètement? Comment le bio que nous avons à notre disposition, que Dieu nous a donné, peut-être mise en œuvre pour que nous apportions non pas simplement une manifestation visible, un langage, des mots, mais que nous puissions apporter du concret dans le soutien, dans la solidarité, dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines de la vie. Dieu est l'inventeur de Zoé. Il nous a donné à chacun une psyché. Il met à notre disposition du bio pour que, au lieu d'être des gens qui prennent la vie, nous soyons de ceux qui la donnent.